je pense à cette réflexion de Louis Jouvet qui disait « L'acteur ne peut jouer que certains rôles. Il déforme les autres selon sa personnalité. Le comédien, lui, peut jouer tous les rôles. L'acteur habite un personnage, le comédien est habité par lui. » C'est une formule, hein, mais une formule qui est on ne peut plus d'actualité parce qu'elle pose la question de ce qu'on peut ou de ce qu'on ne peut pas jouer, mais aussi de ce qu'on a le droit de jouer. Ça paraît fou quand même de se poser la question, surtout quand la comédienne ou le comédien sont bons, mais aujourd'hui, plus que jamais, ça mérite réflexion. Et pas de cri, hein, s'il vous plaît, pas de quoi, de comment, de voilà qu'il cède à l'air du temps, c'est juste une question que tous les comédiens doivent se poser, non? Est-ce qu'on s'autorise à tout jouer? C'est-à-dire, dans une certaine mesure, à singer. Vous avez vu comme un acteur annoncé dans un rôle peut être boycotté si la ressemblance avec celui ou celle qu'il est censé incarner semble forcée. Vous avez vu les procès en appropriation culturelle pour certains acteurs qui jurent, et de bonne foi, qu'incarner quelqu'un d'autre, bah, c'est simplement leur métier. Vous avez vu comme on se pose de plus en plus la question de la légitimité dans ce qui est, ni plus ni moins, une crise de la représentation. À tout moment, ça peut heurter, ça peut blesser, ça peut même violenter, puisqu'en jouant quelqu'un d'autre, quelque part, on prend sa place et on en tire un bénéfice, alors que lui, il reste à sa place et il n'en fait qu'en payer le prix toute sa vie. Jouer, au bout du compte, quel privilège est-ce que c'est ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que joue. Mon invité d'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, il promène sa carrure et son énergie dans le cinéma français. Chez Rémy Besançon, Pierre Salvadori, Cédric Clapiche ou Audrey Diwan. Récemment, il livrait une formidable prestation dans la série d'Arte En Thérapie. Et dans deux semaines, il sera à l'affiche de La Fracture, le nouveau film de Catherine Corsini, présenté à Cannes en juillet dernier. Un film qui se passe dans un service d'urgence au bord de l'asphyxie, sur fond de crise des gilets jaunes. Il y joue le rôle d'un routier blessé par une grenade en pleine manifestation. Bonjour Pierre Marmaille.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce qu'un acteur peut tout jouer ?
Je pense que c'est une question qui est légitime. Après je pense que, moi enfin en tout cas en tant que je parlais en mon nom, je pense que j'essaie de traverser en fait des parcours avec et surtout d'essayer de me laisser porter le plus possible par des directions, des énergies, des choses qui m'échappent parfois. C'est un peu naïf, hein, ce que je dis, mais je pense que c'est un peu, c'est une forme de vérité. Et je me dis, je suis sensible, en fait, à des mouvements de, que me proposent des metteurs en scène, et j'essaie à l'intérieur après de, surtout, déjà, je suis quelqu'un qui ne réfléchit absolument pas. Quand je travaille, en tout cas, je pense à l'intellectualisation de certaines séquences ou quoi. J'essaie de m'en séparer le plus possible et j'essaie de travailler instinctivement au plus proche de ce que je ressens.
Mais
c'est des énergies, quoi.
Que de plus en plus de cinéastes font appel à des personnes qui ne sont pas acteurs, ce qui est le cas de Catherine Corsini d'ailleurs dans La Fracture, oui, pour des rôles de soignants notamment. Il a dû avoir une différence du coup entre les acteurs et les non-acteurs.
Il n'y a pas une différence fondamentale. Après, ce qui était assez fascinant, c'est qu'il y avait une sorte de, il y a un endroit où ça se complète en fait. Si vous voulez, Augustin, pour être très clair, quand on joue les séquences où effectivement, par exemple, le personnage de Yann que j'interprète se fait enlever des morceaux de métal de sa jambe, enfin de morceaux de grenade désencerclement de la jambe, effectivement, il y a une sorte d'évidence quand on travaille avec un aide-soignant, puisqu'il connaît exactement les mouvements et les gestes techniques qu'il faut faire. Donc il y a une chose déjà, on se débarrasse d'une certaine technicité. Et qui est pas désagréable aussi, parce qu'on peut s'abandonner beaucoup plus simplement au jeu.
Mais alors, quand on vous propose de jouer un gilet jaune, quelle question est-ce que vous vous posez, vous, inévitablement, Pio Marmaille?
Moi, si on est franc, je me pose la question, effectivement, de la légitimité, en tant que moi,
Pio Marmaille. Mais ça, c'est passionnant.
Ouais. C'est assez passionnant, parce qu'en même temps, il faut se la poser. Enfin, quelque part, de la légitimité, et en même temps aussi de qu'est-ce que je vais raconter, moi, de ce personnage, en tout cas, de ce gilet jaune.
Oui, c'est-à-dire incarner un personnage qui est sociologiquement loin de ce qu'on est.
Bien sûr.
Du moins aujourd'hui, un personnage socialement dominé quand on fait partie, qu'on le veuille ou non, de dominant aujourd'hui, en tant qu'acteur.
D'une certaine manière. Après, j'aime à croire que j'ai la possibilité de jouer absolument tout ce que je veux. Enfin, en tous les cas, tout ce qu'on me propose.
Alors précisément, la révolte, comment ça se joue?
Ah, ça, c'est une bonne question. Là, je parlais tout à l'heure d'énergie. Je pense que c'est très compliqué parce que justement, quand on incarne ce personnage, enfin, en tout cas, un personnage qui est sur le fil, qui est traversé entre ce sentiment d'explosion, d'injustice et de révolte, comme vous dites, il y a cet endroit où il faut pas tomber dans l'excès non plus, pas dans l'hystérie, mais il faut être une sorte de marmite prête à exploser d'une seconde à l'autre, tout en étant dans une espèce de tenue. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le film. Hein.
C'est aller chercher aussi la révolte qui vous parle à vous, vos propres révoltes.
Oui, totalement. Je pense que, en tout cas, moi, j'avais besoin d'aller puiser dans quelque chose d'assez personnel, ou en tout cas d'assez. J'essaie de trouver une sorte d'incompréhension, des endroits comme ça qui peuvent me paraître incompréhensibles et d'injustice, pardon. Et je me suis plongé là-dedans, en tout cas, en essayant le plus possible, en écoutant évidemment Catherine Corsini, la cinéaste, mais en étant au plus proche possible de ce qu'elle propose comme texte, mais sans tomber dans l'hystérie. Ça, c'est vraiment l'erreur, l'écueil dans lequel j'ai absolument pas voulu tomber.
Alors, quelle révolte est-ce que vous êtes allé chercher en vous ?
Alors, ça, je pense que c'est des trucs très personnels, mais je pense que c'est... pour le coup, je me suis plongé dans une forme de révolte politique et d'injustice qui moi, en tant qu'humain, me rend dingue, quoi.
Ce film, La Fracture, de Catherine Corsini, il parle d'un système de santé au bord de l'implosion, d'une France où les écarts ne cessent de se creuser, d'une crise généralisée. Puis au Marmaille, un film qui aborde des sujets profondément politiques. Mm-hmm. Dans quelle mesure faire un film, c'est aussi pour vous, souvent, un geste politique ?
Je pense que faire du cinéma, ça n'est pas que du divertissement. En tout cas, il y a une forme de divertissement qui est visuelle et qui a trait au projet en soi. Mais je pense que quelquefois, il y a aussi des projets qui dépassent simplement ce cadre de la fantaisie ou du plaisir. Des fois, il y a quelque chose un peu de beaucoup plus profond et qui, moi, en tant qu'humain, en tant que individu qui vit dans une république, forcément, il y a une sorte de truc qui fait écho et que je ne suis pas une machine, en fait. Oui. Quand je joue quelqu'un qui est révolté dans un fauteuil avec la jambe éclatée pendant 2 mois dans une cave, dans des urgences, effectivement, il est possible que parfois ça m'atteigne, moi, en tant qu'humain. Ça me touche à des endroits, même que je le veuille ou non.
C'est intéressant, au fond, que peut le cinéma. Ça peut pas changer le monde. Vous n'êtes pas innocent, mais qu'est-ce que ça peut?
Moi, je pense que déjà, en tout cas, pour ma part, il y a peut-être des endroits où j'ai l'impression parfois de toucher à quelque chose qui ne m'appartient pas, et d'y avoir accès d'une manière assez fugace, comme ça, pendant quelques mois, quelques temps. Et après, c'est à moi d'en faire quelque chose ou pas.
Alors, c'est créer la possibilité d'une empathie, une sorte de mouvement.
En tout cas, oui, probablement une empathie, une vraie empathie, ouais. Et du coup, une catharsis, enfin, quelque chose de thérapeutique peut-être pour moi aussi un peu.
Alors c'est intéressant parce que la présentation du film à Cannes, elle a été entourée d'un malentendu. Puis au Marmaille, à l'issue de la conférence de presse, vous avez tenu des propos qui ont été sortis de leur contexte. On vous a accusé de déclarer vouloir vous en prendre physiquement à Emmanuel Macron. Ça a pris des proportions assez délirantes. Comment vous l'avez vécu ça ?
C'était assez douloureux hein, parce que moi je suis quelqu'un d'absolument non violent, pas du tout dans la violence en fait. Et je c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Quand on traverse des personnages et des figures comme ça, effectivement il y a un truc où ça atteint aussi l'humain que je peux être. Et je pense que j'ai eu des mots effectivement très durs, mais je me suis un peu perdu. Je pense que c'est quelque chose qui a trait à l'humain que je peux être. Mais en l'occurrence effectivement je faisais référence à une séquence, mais qui n'est pas vraiment celle-ci. C'est une espèce d'ensemble, c'est une espèce d'énergie comme ça de ce personnage qui m'a un peu dépassé. Mais je le répète encore une fois, c'est vrai que ça a pris une ampleur qui m'a beaucoup atteint parce que c'est pas du tout ce que je suis dans la vie. Quoi.
Mais maintenant, vous pouvez prendre un peu de distance parce que c'était quand même il y a longtemps. Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui, cette interprétation, cette émotion à ce moment-là ? C'est intéressant.
Ben, je pense. Enfin, pour moi ou pour la manière dont ça a été interprété ?
La manière dont ça a été interprété.
Ah, c'est une sorte de torrent. Parce qu'après, ici, il y a une espèce. Il y a le réseau social aussi. Fabrique une sorte de couche supplémentaire à une information qui est un peu prise comme ça, au dépourvu.
Oui, au point de créer de nouvelles fractures, justement.
Ouais. Oui, exact. Une sorte de continuité du truc, mais qui en plus n'a absolument aucun lien avec le film.
Et puis, c'est cette idée, quand même, on en parlait, qu'on fait plus vraiment la différence entre le comédien et le personnage ou le propos d'un film.
Parce que je pense qu'en plus, quand on incarne un personnage qui a trait une crise, en l'occurrence la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas encore terminée, qui est à vif, je pense qu'on attend plus d'un acteur que simplement son interprétation. Or, moi, je suis simplement un acteur. Ouais. Et c'est quelque chose dont j'ai pas eu forcément conscience, je pense, à certains moments, et à Cannes, peut-être pas. C'est une erreur de ma part. Et je pense que effectivement, c'était extrêmement violent. Je vais pas vous mentir, c'était assez violent, oui.
Vous savez qu'il y en a une qui est dans la fracture dans cette émission. C'est évidemment la culture, Pio. Et son actualité, voiture bélier et marteau piqueur. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 13 octobre? And the Oscar goes to... Titane, le film de Julia Ducournau, Palme d'Or à Cannes, a été choisi pour représenter la France dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Il a été préféré à l'événement d'Audrey Diwan qui a remporté le Lion d'Or à Venise et Bac Nord de Cédric Jimenez. Avant de fouler le rouge tapis hollywoodien, le long métrage porté par Agathe Roussel et Vincent Lindon doit encore passer la phase de présélection de l'Académie des Oscars, une étape que deux de Filippo Meneghetti présenté par la France l'année dernière n'avaient pas franchi.
I have the vanity of an artist. I want my work to be seen.
Hockney, ok. Le musée de l'Orangerie à Paris inaugure aujourd'hui A Year in Normandy Expo, événement consacré au légendaire peintre britannique David Hockney, installé depuis 2019 dans le Pays d'Auge. L'artiste propose une série de paysages normands réalisés à la palette graphique, inspirés tant par la tapisserie de la reine Mathilde du musée de Bayeux que par les maîtres impressionnistes. Hockney y capte en une centaine d'images les changements de lumière des saisons, le passage du temps, les fluctuations du climat. Vous pouvez réécouter l'entretien qu'il nous avait accordé dans Boomerang il y a un an exactement, en podcast ou sur le site de France Inter. La musique qui nous allume en exclu ce matin dans Boomerang, on peut vous dévoiler les premiers noms de la très électrique programmation du Arte Concert Festival qui revient à la Gaîté Lyrique dès le 4 novembre prochain. Pour enflammer les trois soirs du festival, on pourra compter sur l'enchanteur de Blur et Gorillaz, Damon Albarn, sur le groove sensuel de la songwriter américaine Joan Espolice Woman, mais aussi sur les bonnes pulsations de Nova Twins, Anaïs, Eddie Sevensen et C'est Karma. Rendez-vous le 22 octobre pour les inscriptions sur le site de la Gaîté Lyrique, c'est très chic.
Vad heter du för något?
Julia. Det kan inte känna roll någonstans. Han kärste som är väldigt glad.
Okej.
Et enfin, mercredi de douceur, séance bonheur. Aujourd'hui, dans les salles, on tombe sous le charme de Julie en 12 chapitres. Nouvelle livraison de Joachim Trier qui livre un traitement inédit de la comédie romantique. Auréolé à Cannes du prix d'interprétation féminine pour son interprète Renate Reinsve, le film fait penser autant que rêver en proposant un portrait kaléidoscopique et tendre des amours, doux, émus d'une trentenaire en quête de réinvention et de liberté. Pour en parler, Joachim Trier sera notre invité vendredi. Oh oui. Pio Marmaille, invité de Boomerang ce matin pour La Fracture, le nouveau film de Catherine Corsini, un film dans lequel vous jouez un homme blessé qui craint de ne pas pouvoir retourner travailler parce que le corps, c'est sa force de travail. Et le film met en scène d'ailleurs des corps souffrants, des corps empêchés. Pour vous, quel outil est-ce que c'est, le corps, pour vous, comédien?
Moi, je pense que je fais partie des acteurs qu'on dit physique, c'est-à-dire... en tout cas, c'est une manière de parler. Mais c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du fait d'avoir un rapport assez instinctif à la langue. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui me traverse d'abord physiquement et après quelque chose qui sort de ma bouche. Parfois, c'est pas toujours très bon, mais bon, c'est comme ça que ça se passe pour moi.
Ça veut dire que c'est toujours mettre son corps à l'épreuve.
Oui, et surtout en fait d'avoir ça comme une sorte d'outil. Alors, c'est encore une fois, c'est assez simple ce que je raconte, mais bon, c'est un métier, c'est pas toujours évident. Mais là, en l'occurrence, sur le film de Catherine, ce qui était très délicat pour moi, c'était d'être déjà assis en permanence. Un peu, ça me rappelait un petit peu d'une certaine manière. En thérapie, mais ce moment-là, j'étais blessé. Donc, c'est déjà il y a une douleur qu'il faut avoir en permanence, en tête, physiquement, essayer d'incarner ce truc et être assis pendant un film entier, c'est pas évident. Pendant deux mois dans un petit fauteuil à roulettes, sans grande roulette, je précise, c'était pas évident pour se déplacer. Merci Catherine. c'est vrai que ça c'est pas évident pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez excessif, nerveux quoi.
Alors justement, jusqu'où vous allez tester votre corps quand vous jouez, jusqu'au point de risquer parfois l'accident, jusqu'au point de risquer la blessure, Pio?
Oui, d'ailleurs, je me suis blessé sur le film d'après. J'ai sauté au-dessus d'un arbuste millénaire.
Ah bah bravo.
Il y avait des petits pics, bien sûr.
Mais c'était dans le film, ça?
Non, c'était un film d'après. Je me suis ouvert tout le mollet. Ça peut arriver.
Non, c'était dans le film de devoir sauter par-dessus l'arbuste ou pas?
C'était une proposition. On va dire ça comme ça. C'est une petite proposition de ma part. Je me suis dit, je vais sauter au-dessus de l'arbuste, on verra ce qui se passe.
Non, mais malheureusement,
j'ai tapé sur le petit pic.
Non, mais là.
Et la jambe a sauté, oui. Mais bon, en tous les cas, oui, ça, c'est le hasard. Mais non, je fais quand même attention.
Je sais par exemple que pour les Trois Mousquetaires que vous êtes encore en train de tourner, qui est en préparation, vous réalisez vous-même toutes vos cascades.
On fait la majorité des cascades. Alors, il y a certaines qu'on ne peut pas faire. Par exemple, des projections à 15 mètres de haut, ça, c'est des choses qu'on évite de faire, de manière à pouvoir tenir les 7 mois de tournage. Mais j'essaie de faire le plus de cascades possible. En tout cas, ça fait partie c'est un parti pris du film.
Il y a la peur de se faire mal.
Mais parce qu'on se fait mal. Évidemment, quand on tombe et qu'on se prend des coups de poing dans la tronche, même des fois ça rip. C'est pas toujours parfait. Donc forcément, des fois ça fait mal. Mais c'est pas gravissime. Je pense qu'il faut accepter. Il faut accepter d'avoir. Enfin, c'est pas non plus l'horreur. Hein. Je me prends pas des coups de couteau toute la journée.
Non, mais il paraît. Puis au Marmaille, dites-moi si je me trompe, hein, que vous êtes un habitué des services d'urgence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Qui vous a dit un truc pareil?
Moi, bon, je t'en doute ce que j'ai lu. Hein.
Une serviette d'urgence. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Oui, je me suis blessé, oui, c'est vrai que ça m'arrive parce que je suis un peu maladroit. Comme je suis assez excessif et spontané, peut-être.
Vous voulez dire que l'arbuste, il était pas si haut?
Il était très très bas. Bon, on va être franc, il était assez bas. Mais seulement, il y avait des petits pics qui étaient là. Bon, bref, enfin bon. Et puis j'étais en caleçon aussi, donc ça enlève une couche de tissu qui aurait pu protéger la plaie. Mais bon, oui, c'est vrai que des fois, je me laisse un peu déborder.
Vous êtes prudent dans la vie?
Dans la vie, peut-être que je le suis plus que sur des plateaux, peut-être, oui. Mais en même temps, oui et non, je suis quelqu'un d'assez contradictoire, je suis un humain. Hein.
C'est intéressant parce que votre personnage qui est routier dans le film, il parle de l'amour de la route et du sentiment de liberté que c'est de rouler la nuit. Notamment, la liberté chez un acteur, ça tient à quoi pour vous, Pio Marmaille?
Je pense que la vraie liberté, ça tient à accepter de s'abandonner à des metteurs en scène en totalité, dans l'absolu. C'est de se dire, comme quand je travaille avec Catherine ou avec Pierre, ça va nourrir d'autres personnes. Je m'abandonne complètement à leur regard, à leur écriture. Et ça, je pense que ça fait partie vraiment... C'est assez contradictoire parce qu'il faut quand même que je joue quelque chose et je dépends complètement de leur direction. Mais il y a vraiment un endroit de liberté que j'éprouve de plus en plus.
On en écoute, hein, ensemble, là, maintenant, un acteur qui s'abandonne.
Allez, vas-y.
On y va.
You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now?
Stay away from me. Please. Don't hurt me.
I'm not gonna hurt you.
Stay away from me.
Wendy.
Stay away.
Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you.
Jack Nicholson dans Shining de Stanley Kubrick en 1980. Ce film, Pio Marmaille, vous le connaissez par cœur?
Pas par cœur, mais je pense que je connais en grande partie.
Je vous avais bougé les lèvres, là.
Un petit peu, mais j'étais en train de... Oui, j'ai essayé de faire semblant de... Non, je vois à peu près de quoi on parle.
Vous faisiez quel personnage?
Je fais un peu tout en même temps dans ma tête. Il y a beaucoup trop de personnes, là, en ce moment.
Quels souvenirs, quels traumas vous reviennent immédiatement quand vous repensez à Shining?
Ouais, c'est tout.
Quelles leçons aussi?
Moi, c'est plus un trauma. Je pense que c'est l'ouverture du film. Ce plan avec le où on voit cette voiture qui s'isole de plus en plus avec ces plans d'hélicoptère qui passent au ras de la flotte. Et c'est une scène très simple, mais en fait d'une manière assez évidente comme ça. Kubrick, il arrive à nous faire comprendre que en fait, c'est au milieu de nulle part et que ça va très mal se passer. Et c'est quelque chose comme ça avant même que quelqu'un parle. On se dit aïe, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'isoler de manière assez deep et que ça va très mal finir cette histoire.
Et sur le jeu de l'acteur, parce que c'est quand même votre métier, Pio Marmaille, le regard de Jack Nicholson, tout simplement. Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard?
Moi, je vois à peu près tout. Moi, je vois surtout quelqu'un qui s'amuse. En fait, c'est ça. Moi, je crois beaucoup au plaisir. Je pensais pas quelqu'un qui est. Enfin, en tout cas, j'aime à croire que c'est ce tournage. En tout cas, la manière dont Nicholson même en parle, c'est quelque chose d'extrêmement ludique pour lui. Et on le voit dans le making of du film. On voit qu'il est en train de jouer aux cartes avec des techniciens. Et la seconde, et trois minutes après, il prend la machette, il prend la hache, il s'entraîne, il crie un peu dans le vide. Et c'est parti. Ça joue. C'est quelqu'un qui s'amuse, qui prend plaisir à jouer.
C'est un peu moins ludique, je crois, à l'époque pour Shelley Duvall.
Ça, c'est ça. Là, ça, on est d'accord. On est d'accord, mais là on parlait uniquement de Jack Nicholson.
Et dans ses yeux, il vous arrive de voir le démon?
Ah, le démon, ça c'est fascinant, très bonne question. Est-ce que je vois le démon? Oui, je vois le démon, en tout cas je vois quelqu'un qui a envie de... Enfin je sais pas, c'est assez abyssal, hein. Mais moi j'aime bien ça, moi j'ai envie de me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire celui-ci? C'est ce que je me dis, ouais, j'aime bien, je suis...
Vous le dites comme ça quand vous le dites? Ouh là là, qu'est-ce qu'il va me faire celui-ci? C'est intéressant.
Qu'est-ce qu'il va m'y faire ce petit Jack? Qu'est-ce qu'il va encore me faire avec sa petite manchette?
Non mais c'est un rapport au cinéma intéressant. Moi, non mais en tout cas, jugement.
Oh, vous savez, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Non mais bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a de plus démoniaque en vous?
Oh bah, je pense que je suis déjà assez démoniaque tout seul. Hein. Mais non, je sais, enfin démoniaque, je sais pas trop. Moi j'aime bien en tout cas ne rien m'interdire. Et même en tout cas même quand je travaille d'aller vers des propositions qui sont pas forcément efficaces. Je m'en fous de l'efficacité de plus en plus. J'aime bien faire des trucs qui sont assez mauvais. En tout cas, un peu excessif, et puis me dire après, voilà, au niveau du curseur, on essaye. Mais j'ai pas envie de me dire, oh, j'ai pas essayé ça, ou j'ai pas essayé d'être nul. Il y a certains partenaires qui acceptent ça. Ça, c'est très agréable.
Mais votre regard, il arrive qu'il soit possédé, vous aussi? Par quoi?
Ça dépend de l'heure, hein, aussi, hein. Ouais, parfois, il est plus possédé qu'à l'autre.
Là, par exemple, à 9h25.
Non, là, il est très focus, hein.
Est-ce que vous jouez suffisamment de vos yeux, de votre regard?
Alors, dans quel sens vous...
Mais est-ce que c'est un outil pour l'acteur que vous êtes?
Oui, alors moi j'ai un strabisme.
C'est vrai.
Je vous assure, j'ai un petit strabisme quand je suis fatigué. Donc j'essaie toujours de mettre un peu trois quarts pour qu'on se dise pas trop.
Non, mais, attendez,
non, mais je plaisante, évidemment.
C'est une
non.
bonne question. Qu'est-ce qu'on peut exprimer par un regard?
Là, je pense énormément de choses. Parce que, évidemment, si on fait référence encore à Jack Nicholson, surtout dans ce film-là, il y a une sorte de... de feu, de puissance qui s'en dégage. Mais moi, j'essaie. Je pense que c'est une. Je saurais pas trop quoi dire là-dessus parce que, en tout cas, je me suis jamais posé la question. Je pense que s'il y a une sorte de fulgurance comme ça intérieure, évidemment, il se passerait quelque chose dans mon regard.
En l'occurrence, moi, je pense à Shelley Duvall, dont le regard effrayé produit pour moi l'épouvante.
Ah mais les deux films qui sont fondamentalement terrifiés, oui.
Qu'est-ce qui vous fait peur, vous?
La folie pure et dure, c'est-à-dire le fait de plus revenir. Ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. La folie et la maladie grave. Bon, après, c'est des trucs qui sont trop personnels.
Et vous êtes déjà fait peur?
Oh là, oui. Oui, ça m'est arrivé, oui. Plus jeune. De pas revenir. Voilà.
On va reparler ensemble de peur, de regard, et qui sait, de démon, juste après, de l'énergie, une énergie furieuse. Celle des Ramones, parce que vous les aimez autant que moi. I Wanna Be Sedated sur l'album Road to Ruin en 1978. Vous êtes sur France Inter avec Pio Marmaille. Vous écoutez Boomerang, évidemment. C'est quand même assez intéressant, on est quelque part entre l'artisan fromager et le poussin. L'œil duvet, le sourire commerçant, la main habile, rassurante, hydratée. On l'imagine dans l'arrière-boutique en tablier, en sabots suédois, en train de casser la croûte avec son opinel, son frometon, son ballon, devant un jeu de loi, tout en tatouage. Ce matin, le comédien Pio Marmaille, invité de Boomerang pour La Fracture de Catherine Corsini, un film qui interroge de façon assez passionnante le déterminisme social à travers les différents personnages que l'on croise. Votre personnage, il est routier, son père était routier. Je me suis demandé dans quelle mesure votre milieu a eu une incidence sur ce que vous êtes devenu.
Je pense que l'incidence, en tout cas l'influence, elle était évidente. Ma mère était chef costumière à l'Opéra National de Strasbourg, mon père scénographe. Je pense que quand j'étais enfant, enfin je pense pas, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'allais tout le temps en répétition.
Ah bah le petit Pio.
Ouais, le petit Pio, le petit Pio habillé en ange sur le plateau de l'Opéra de Strasbourg.
Habillé en ange.
Oui, c'était lors d'une sorte de kermesse. Appelons ça une petite kermesse. Et j'étais très tôt sur les plateaux à l'Opéra.
Et ils vous emmenaient dans les coulisses de l'Opéra?
Ouais, donc oui, très souvent, ouais. Plutôt au général et aux couturières. Et c'est vrai que c'était un cas, mais à l'époque, je trouvais ça totalement normal, mais je me rendais pas compte que c'était quelque chose d'assez rare.
Vous teniez à carreau, j'espère.
Oui, je m'ennuyais même, soyons francs. Oui, parce que quand on a 4-5 ans, c'est vrai que se farcir des générales de Wagner, c'est pas forcément le truc le plus dingue c'est pas le truc qu'on a envie de faire.
Mais c'est intéressant. Parce que oui, c'est à l'opéra que vous êtes monté sur scène pour la première fois très jeune.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais 5 ans peut-être. J'étais habillé en ange. quelque chose, un rôle assez simple à jouer évidemment, et puis et j'allais tirer des, je crois que c'était des noms de gens qui avaient gagné des cadeaux. Et oui, j'avais trouvé ça assez, j'avais dû dire une connerie parce que tout le monde avait rigolé, un peu comme là, et puis voilà. Après ça c'est, j'ai continué à faire de la figuration, il y a pas des spectacles et des films.
Mais très vite vous avez su que vous vous sentiez à l'aise sur cet espace si particulier.
Je me suis jamais vraiment senti à l'aise. Je pense que moi, je me sens jamais vraiment à l'aise. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que, avant d'y aller, c'est toujours une tannée, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les acteurs. Et après, il y a un truc qui m'échappe un peu. Mais me sentir à l'aise, je sais pas. Je me sens pas toujours à l'aise, non.
Vous diriez que c'est toujours là, cette légère anxiété, quand vous êtes en tournage, dans les secondes qui précèdent l'action du réalisateur?
Oui, c'est toujours là. Je pense que c'est nécessaire, parce que sinon, il y a une sorte de, peut-être une mollesse ou quelque chose. Une... Moi, j'aime bien le...
Ah bah la mollesse, ouais.
La mollesse, bon, c'est pas mon truc. Je pense que vous l'avez compris. Mais il y a un truc de l'intranquillité qui m'aide. Et j'aime bien être dans un endroit un peu sur le fil, quoi. Parfois un peu trop, malheureusement. Mais il y a quelque chose de que j'ai besoin de me sentir un peu dépassé par ce qui se passe, quoi. Un truc qui m'échappe quelque part, parce que sinon c'est l'ennui.
Si ça se trouve, c'est ce que vous allez chercher quand vous êtes comédien. C'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi vous êtes devenu comédien, Pio Marmaille?
Non, je pense que c'était au tout début déjà, et même toujours. Hein, c'est un rapport à l'autre, hein, au partenaire, où je m'amuse avec, où on est ensemble. Et puis, en fait, j'aime bien aussi regarder les acteurs qui jouent. Quand les acteurs parlent, je les observe et je me dis oh là là, il putain. Enfin, pardon, oh malheureux, j'ai dit un gros mot. Non, mais je les observe et je me dis. Ah, j'aime bien les écouter parler, j'y crois, quoi. Et puis après je dis quelque chose et puis ça continue. Mais je sais pas, j'aime bien regarder les autres jouer.
Pour pouvoir incarner des héros aussi.
Alors ça c'est une grande question là, les héros, oui je pense un peu, mais incarner un héros c'est pas moi qui le décide, je pense que c'est un truc qui me dépasse complètement, c'est le regard d'un metteur en scène ou du public qui va créer un personnage héroïque, c'est pas le personnage en soi qui l'est.
Pourquoi, qu'est-ce que ce serait un héros pour vous?
Je pense que le mec que j'interprète, Yann, c'est un héros d'une certaine manière, ce mec là, ce routier qui a qu'une envie, c'est de travailler et qu'on empêche de travailler, ça pour moi c'est un héros, ouais.
C'est un texte de Bernard-Marie Coltès, de Roberto Zucco, que vous avez interprété au théâtre il y a 6 ans, que vous avez voulu nous lire ce matin, pardon. Un texte qui parle de héros, justement. On vous écoute.
Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur, ni odeur. Que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études. J'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée, parmi d'autres bons élèves, au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible, pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux et traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai, invisible parmi les invisibles, silencieux et attentif, dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase et qui se déplace très lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre.
Ce texte, Pio Marmaille.
Ah, c'est quelque chose, hein.
Tiré de Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès. Ça vous arrive souvent de vous sentir comme un hippopotame?
Alors, en tout cas, un hippopotame enfoncé dans la vase qui se déplace très lentement. Je sais pas, en tout cas, ça raconte quelque chose. Et
je parle du texte, je me serais pas permis.
Ah, mais attendez, mais bon, là, ouais. Oui, non, mais je pense que oui, un petit peu, ouais. J'aime bien cette idée-là de la masse comme ça, un peu. Comment dire, cette espèce de puissance animale, c'est quelque chose que j'aime observer déjà dans la nature, on en parlait tout à l'heure, et que j'aimerais bien essayer. Bon, après, je ne sais pas, on parlait d'animal totem tout à l'heure. Je ne sais, l'hippopotame n'est pas mon animal totem, je pense que c'est plus le phacochère. Mais, mais en tout cas, j'aime bien cette puissance, j'aime bien l'idée de la puissance animale. Oui.
Moi, je disais que j'aimerais bien être un renard, mais qu'en fait, je suis sans doute un oiseau.
Mais c'est beau, les petits oiseaux, Guzin.
Ouais, ça dépend de l'oiseau, ouais. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Moi, je pense que c'est l'envie de passer comme ça au travers d'une société d'une manière assez discrète. Et en même temps, il y a toujours quelque chose qui te ramène vers un truc instinctif, un peu. En tout cas, là, on parle de Roberto Zucco. Mais quelque chose de la furie destructrice, quelque chose qui, même si on lutte contre, il y a quelque chose comme ça qui, hop, qui avance malgré soi.
Vous diriez qu'elle s'applique à l'acteur, justement, devenir invisible au profit d'un personnage, disparaître derrière un rôle.
Peut-être. Et en même temps, j'aime aussi avoir, j'ai toujours été emballé par la distanciation brechtienne parce qu'il y a quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans, c'est-à-dire à la fois jouer un personnage et j'aime bien aussi voir des acteurs qui me montrent qu'ils sont en train de jouer quelque chose. Et ça, j'y suis assez sensible. C'est quelque chose, c'est un espèce de va-et-vient comme ça entre l'incarnation pure et le plaisir de voir un acteur jubilé d'un personnage, d'une langue. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien jouer du fait que je suis en train de jouer. Mais après,
là, par exemple, ce matin, vous avez joué.
Oui, mais en même temps, j'ai pas le son. En même temps, pas tout le temps. Enfin, je sais pas. Je m'en rends pas compte si je joue, mais forcément, on est écouté. Donc, il y a une.
C'est une scène comme une autre.
Oh la vie, bien sûr. France Inter est une. J'entends. Mais après, j'essaie d'être un peu de plus en plus honnête. Hein, je pense un petit peu.
Alors merci pour votre honnêteté ce matin, Pio Marmaille, et merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que La Fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs et Aïssata Diallo Sagna sort dans 2 semaines. C'est un film puissant, c'est un film très drôle aussi, il faut quand même le rappeler.
C'est un film, absolument délicieux et drôle, ouais, très très drôle.
Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Arthur H, 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'Instant M. Ça va, Sonia?
Oui, ça va, Augustin.